Le chasseur de scarabées. Une expérience curieuse, dit le docteur. Oui, mes amis, j'ai vécu une expérience très curieuse. Je ne m'attends jamais à en vivre une autre, car il est contraire à toutes les doctrines du hasard que deux événements de ce genre puissent arriver à un homme au cours d'une même vie. Vous pouvez me croire ou non, mais les choses se sont passées exactement comme je le raconte. Je venais de devenir médecin, mais je n'avais pas encore commencé à exercer, et je vivais dans des chambres de gastrite. La rue a été renumérotée depuis, mais c'était dans la seule maison qui possède une fenêtre en saillie, sur le côté gauche en descendant de la gare métropolitaine. Une veuve nommée Merchesen occupait la maison à l'époque, et elle avait trois étudiants en médecine et un ingénieur comme loge. J'occupais la chambre du haut, qui était la moins chère, mais aussi bon marché soit-elle, c'était plus que ce que je pouvais me permettre. Mes maigres ressources diminuaient, et chaque semaine il devenait plus nécessaire que je trouve quelque chose à faire. Pourtant, j'étais très réticent à me lancer dans la médecine générale, car mes goûts étaient tous orientés vers la science, et en particulier la zoologie, pour laquelle j'avais toujours eu un fort penchant. J'avais presque abandonné le combat et me suis résigné à être un homme de main médical à vie. Lorsque le tournant de mes luttes est arrivé d'une manière très extraordinaire. Un matin, j'avais pris le journal et j'en avais parcouru le contenu. Il n'y avait aucune nouvelle, et j'étais sur le point de le jeter à nouveau lorsque mes yeux ont été attirés par une annonce en tête de la rubrique personnelle. Elle était formulée de la manière suivante. Recherchait pour un ou plusieurs jours les services d'un médecin. Il est essentiel que ce soit un homme de physique solide, aux nerfs solides et d'une nature résolue, il doit être entomologiste. Coloptériste de préférence. Postuler en personne au 77B Brook Street. La candidature doit être déposée avant midi aujourd'hui. Maintenant, j'ai déjà dit que j'étais dévoué à la zoologie. De toutes les branches de la zoologie, l'étude des insectes était celle qui m'attirait le plus. Et de tous les insectes, les coléoptères étaient l'espèce que je connaissais le mieux. Les collectionneurs de papillons sont nombreux, mais les coléoptères sont bien plus variés et plus accessibles dans ces îles que les papillons. C'est ce fait qui avait attiré mon attention sur eux, et j'avais moi-même constitué une collection qui comptait une centaine de variétés. Quant aux autres conditions requises pour l'annonce, je savais que l'on pouvait compter sur mes nerfs, et j'avais remporté le concours de lancer de poids à l'Interosp. De toute évidence, j'étais l'homme de la situation. Moins de 5 minutes après avoir lu l'annonce, j'étais dans un taxi en route pour Brook Street. Tout en conduisant, je n'arrêtais pas de retourner la question dans ma tête, essayant de deviner quel genre d'emploi cela pouvait être qui nécessitait des qualifications aussi curieuses. Un physique solide, une nature déterminée, une formation médicale et une connaissance des Beatles. Quel rapport pouvait-il y avoir entre ces différentes conditions requises ? Et puis il y avait le fait décourageant que la situation n'était pas permanente, mais qu'elle pouvait être terminée au jour le jour, selon les termes de l'annonce. Plus j'y réfléchissais, plus cela devenait inintelligible. Mais, à la fin de mes méditations, je revenais toujours au fait que, quoi qu'il arrive, je n'avais rien à perdre, que j'étais complètement au bout de mes ressources et que j'étais prêt à toute aventure, aussi désespérée soit-elle, qui me permettrait de mettre quelques honnêtes sous-vins dans la poche. L'homme craint d'échouer, qui doit payer pour son échec. Mais il n'y avait aucune pénalité que la fortune pouvait exiger de moi. J'étais comme le joueur aux poches vides, qui a encore le droit de tenter sa chance avec les autres. Le numéro 77 Bell de Brook Street était l'une de ces maisons ternes et pourtant imposantes, aux murs ternes et plats, avec cet air intensément respectable et solide qui caractérise les constructeurs géorgiens. Alors que je descendais du taxi, un jeune homme sortit de la porte et descendit rapidement la rue. En passant devant moi, je remarquai qu'il me jetait un regard inquisiteur et quelque peu malveillant, et je pris cet incident comme un bon présage, car il avait l'air d'un candidat rejeté, et s'il était mécontent de ma candidature, cela signifiait que le poste n'était pas encore pourvu. Plein d'espoir, je montai les larges marches et m'entourai du lourd heurtoir. Un valet de pied en livrée et en poudre ouvrit la porte. De toute évidence, j'étais en contact avec des gens riches et élégants. « Oui, monsieur, » dit le valet de pied. « Je suis venu en réponse à tout à fait, monsieur, » dit le valet de pied. « Lord Lynchmere va voir tout de suite dans la bibliothèque. » Lord Lynchmere. J'avais vaguement entendu son nom, mais je ne pouvais me rappeler quoi que ce soit à son sujet pour l'instant. Après le valet de pied, on me fit entrer dans une grande pièce tapissée de livres dans laquelle était assis derrière un bureau un petit homme au visage agréable, rasé de près et mobile, et aux longs cheveux gris repoussés en arrière de son front. Il me toisa de haut en bas d'un regard très perspicace et pénétrant, tenant dans sa main droite la carte que le valet de pied lui avait donnée. Puis il sourit agréablement, et je sentis qu'extérieurement, du moins, je possédais les qualifications qu'il désirait. « Vous êtes venu en réponse à mon annonce, docteur Hamilton, » demanda-t-il. « Oui, monsieur. Remplissez-vous les conditions qui y sont énoncées ?»« Je crois que oui. Vous êtes un homme puissant, du moins c'est ce que j'en jugerai d'après votre apparence. Je pense que je suis assez fort et résolu. Je le crois. Avez-vous déjà su ce que c'était que d'être exposé à un danger imminent ? Non, je ne sais pas si je l'ai déjà su. Mais pensez-vous que vous seriez prompt et calme dans un tel moment ? Je l'espère. Eh bien, je le crois. J'ai d'autant plus confiance en vous que vous ne prétendez pas être certain de ce que vous feriez dans une position qui vous serait nouvelle. J'ai l'impression qu'en ce qui concerne les qualités personnelles, vous êtes l'homme que je recherche. Ceci étant dit, nous pouvons passer au point suivant, qui est de me parler des Beatles. Je regardais de l'autre côté pour voir s'il plaisantait, mais au contraire, il était penché en avant avec impatience par-dessus le bureau, et il y avait une expression qui ressemblait à de l'anxiété dans ses yeux. « Je crains que vous ne sachiez rien sur les Beatles, » s'écria-t-il. Au contraire, monsieur, c'est le seul sujet scientifique sur lequel j'ai le sentiment de vraiment savoir quelque chose. Je suis ravi de l'entendre. Parlez-moi des coléoptères, s'il vous plaît. J'ai parlé. Je ne prétends pas avoir dit quoi que ce soit d'original sur le sujet, mais j'ai donné un bref aperçu des caractéristiques du coléoptère et j'ai passé en revue les espèces les plus courantes, avec quelques illusions sur les spécimens de ma propre petite collection, et l'article sur les nécrophages que j'avais publié dans le Journal of Entomological Science. Quoi ? Pas un collectionneur, s'écria Lord Lynchmere. Vous ne voulez pas dire que vous êtes vous-même un collectionneur ? Ses yeux brillaient de plaisir à cette pensée. Vous êtes certainement l'homme qu'il me faut à Londres. Je pensais que parmi 5 millions de personnes, il devait y avoir un tel homme, mais la difficulté est de mettre la main sur lui. J'ai eu une chance extraordinaire de vous trouver. Il sonna un gong sur la table, et le valet de pied entra. Demandez à Lady Rossa d'avoir la bonté de s'approcher, dit sa seigneurie, et quelques instants plus tard, la dame fut introduite dans la pièce. C'était une petite femme d'âge moyen, ressemblant beaucoup à Lord Lynchmere en apparence, avec les mêmes traits vifs et alertes et des cheveux noirs gris. L'expression d'anxiété, cependant, que j'avais remarquée sur son visage, était beaucoup plus marquée sur le sien. Une grande tristesse semblait avoir projeté son ombre sur ses traits. Lorsque Lord Lynchmere me présenta, elle tourna son visage droit vers moi, et je fus choqué de voir une cicatrice à moitié guérie s'étendant sur 5 cm au-dessus de son sourcil droit. Elle était en partie dissimulée par du plâtre, mais je pouvais néanmoins voir qu'il s'agissait d'une blessure grave et qui n'avait pas duré longtemps. Le docteur Hamilton est l'homme qu'il nous faut. Evelyn, dit Lord Lynchmere. Il est en fait un collectionneur de Beatles et il a écrit des articles sur le sujet. Vraiment ? Dit Lady Rossa. Alors vous devez avoir entendu parler de mon mari. Tous ceux qui connaissent un peu les Beatles doivent avoir entendu parler de Sir Thomas Rossa. Pour la première fois, un mince rayon de lumière commença à percer dans cette obscure affaire. Il y avait enfin un lien entre ces personnes et les Beatles. Sir Thomas Rossa. Il était la plus grande autorité mondiale en la matière. Il en avait fait l'étude de toute sa vie et avait écrit un ouvrage des plus exhaustifs sur le sujet. Je m'empressai de lui assurer que je l'avais lu et apprécié. « Avez-vous rencontré mon mari ?» demanda-t-elle. « Non, je ne l'ai pas fait. »« Mais vous le ferez, » dit Lord Lynchmere avec détermination. La dame se tenait à côté du bureau et elle posa sa main sur son épaule. Il m'apparut évident, en voyant leurs visages ensemble, qu'ils étaient frères et sœurs. « Es-tu vraiment préparé à cela, Charles ? C'est noble de ta part, mais tu me fais peur. Sa voix tremblait d'appréhension, et il me parut tout aussi ému, bien qu'il fît de grands efforts pour dissimuler son agitation. Oui, oui, ma chère, tout est réglé. Tout est décidé. En fait, je ne vois pas d'autre moyen possible. Il y a un moyen évident. Non, non, Evelyne. Je ne vous abandonnerai jamais. Jamais. Tout ira bien. Comptez-y. Tout ira bien. Et il semble bien que ce soit l'intervention de la Providence qu'un instrument aussi parfait soit mis entre nos mains. Ma position était embarrassante, car je sentais qu'à l'instant même ils avaient oublié ma présence. Mais Lord Linchmere revint soudainement vers moi et mon engagement. Ce pourquoi je vous demande, docteur Hamilton, c'est que vous vous mettiez absolument à ma disposition. Je souhaite que vous veniez faire un court voyage avec moi, que vous restiez toujours à mes côtés et que vous me promettiez de faire sans poser de questions tout ce que je vous demanderai, aussi déraisonnable que cela puisse vous paraître. C'est beaucoup demandé, dis-je. Malheureusement, je ne peux pas le dire plus clairement, car j'ignore moi-même quelle tournure les choses peuvent prendre. Soyez sûr, cependant, qu'on ne vous demandera pas de faire cela, tout ce que votre conscience n'approuve pas. Et je vous promets que lorsque tout sera terminé, vous serez fier d'avoir participé à une si bonne œuvre. Si tout se termine bien, dit la dame. Exactement. Si tout se termine bien, répéta sa seigneurie. Et les conditions? Demandai-je. 20 par jour. J'ai été stupéfait par la somme et j'ai dû lire ma surprise sur mes traits. C'est une rare combinaison de qualités, comme vous avez dû le remarquer lorsque vous avez lu l'annonce pour la première fois, dit Lord Linchmere. Des dons aussi variés peuvent bien exiger un rendement élevé. Et je ne vous cache pas que vos fonctions pourraient être ardues, voire dangereuses. D'ailleurs, il est possible qu'un ou deux jours mettent fin à l'affaire. S'il plaît à Dieu, soupira la sœur. Alors maintenant, docteur Hamilton, puis-je compter sur votre aide? Sans aucun doute, dis-je, vous n'avez qu'à me dire quelles sont mes fonctions. Votre première tâche sera de rentrer chez vous. Vous emballerez tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour une courte visite à la campagne. Nous partirons ensemble de la gare de Paddington à 15h40 cet après-midi. On va loin? Jusqu'à Pangbourne. Retrouvez-moi à la librairie à 15h30. J'aurai les billets. Au revoir, docteur Hamilton. Et au fait, il y a deux choses que je serais très heureux que vous preniez avec vous au cas où vous les auriez. L'une est votre étui pour collectionner les Beatles, et l'autre est un bâton, et plus il est épais et lourd, mieux c'est. Vous pouvez imaginer que j'ai eu beaucoup de choses à penser depuis le moment où j'ai quitté Brook Street jusqu'à ce que je parte rencontrer Lord Linchmere à Paddington. Toute cette histoire fantastique n'a cessé de s'arranger et de se réarranger sous des formes kaléidoscopiques dans mon cerveau jusqu'à ce que j'ai pensé à une douzaine d'explications, chacune d'entre elles étant plus grotesquement improbable que la précédente. Et pourtant, j'avais le sentiment que la vérité devait être quelque chose de grotesquement improbable aussi. Finalement, j'ai abandonné toute tentative de trouver une solution et je me suis contenté de suivre exactement les instructions que j'avais reçues avec un étui à échantillon de main et une canne chargée. J'attendais à la librairie de Paddington lorsque Lord Linchmere est apparu. Linchmere arriva. C'était un homme encore plus petit que je ne l'avais pensé, frêle et élancé, avec des manières plus nerveuses que le matin. Il portait une longue et épaisse gibecière de voyage, et j'ai remarqué qu'il tenait à la main un lourd gourdin de prunellier. « J'ai les billets, » dit-il en nous montrant le chemin qui montait sur le quai. « Voici notre train. » J'ai réservé une voiture, car je tiens particulièrement à vous faire comprendre une ou deux choses pendant que nous descendons. Et pourtant, tout ce qu'il avait à me faire comprendre aurait pu être dit en une phrase, car c'était que je devais me rappeler que j'étais là pour le protéger, et que je n'avais aucune intention de le quitter un instant. Il répéta cela encore et encore tandis que notre voyage touchait à sa fin, avec une insistance qui montrait que ses nerfs étaient complètement ébranlés. « Oui, » dit-il enfin en réponse à mes regards plutôt qu'à mes paroles. « Je suis nerveux, docteur Hamilton, j'ai toujours été un homme timide, et ma timidité dépend de ma santé physique fragile. Mais mon âme est ferme, et je peux me résoudre à affronter un danger qu'un homme moins nerveux pourrait éviter. Ce que je fais maintenant n'est pas une contrainte, mais entièrement un sentiment de devoir. Et pourtant, c'est sans aucun doute un risque désespéré. Si les choses tournent mal, j'aurai des prétentions au titre de martyr. Cette éternelle lecture d'énigmes était trop pour moi. J'ai senti que je devais y mettre un terme. Je pense qu'il serait bien mieux, monsieur, que vous me fassiez entièrement confiance, dis-je. Il m'est impossible d'agir efficacement, quand j'ignore quels sont les objectifs que nous avons en vue, ni même où nous allons. Oh, quant à savoir où nous allons, il n'y a pas lieu de faire de mystère là-dessus, dit-il. Nous allons à Delhi, la résidence de Sir Thomas Rossa, dont vous connaissez si bien les travaux. Quant à l'objet exact de notre visite, je ne le sais pas. Sachez qu'à ce stade de la procédure, tout serait gagné, docteur Hamilton, en vous mettant dans ma confidence. Je puis vous dire que nous agissons, je dis bien nous, parce que ma sœur, Lady Rosita, partage mon avis, dans le seul but d'empêcher tout scandale familial. Cela étant, vous pouvez comprendre que je répugne à donner des explications qui ne soient pas absolument nécessaires. Ce serait une autre affaire, docteur Hamilton, si je vous demandais conseil. En l'état actuel des choses, je n'ai besoin que de votre aide active, et je vous indiquerai de temps en temps la meilleure façon de me l'apporter. Il n'y avait rien de plus à dire, et un pauvre homme peut se permettre beaucoup pour 20 livres par jour. Mais j'ai quand même senti que Lord Lynchmere se comportait plutôt mesquinement envers moi. Il voulait me transformer en un instrument passif, comme l'épine noire dans sa main. Avec son caractère sensible, j'imaginais cependant que le scandale serait abortif pour lui, et j'ai compris qu'il ne me mettrait pas dans sa confidence tant qu'il n'y aurait pas eu de scandale. Une autre voie s'offrait à lui. Je devais me fier à mes propres yeux et à mes propres oreilles pour résoudre le mystère. Mais j'étais persuadé que je ne m'y fierais pas en vain. Delmar Court se trouve à 8 km de la gare de Pangbourne, et nous avons parcouru cette distance en voiture ouverte. Lord Lynchmere resta assis, plongé dans ses pensées, et il n'ouvrit la bouche que lorsque nous fûmes proches de notre destination. Lorsqu'il parla, ce fut pour me donner une information qui me surprit. « Peut-être ne savez-vous pas, dit-il, que je suis médecin comme vous. » « Non, monsieur, je ne le savais pas. Oui, j'ai obtenu mon diplôme dans ma jeunesse, alors que plusieurs vies m'empêchaient d'être purgé. Je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer, mais j'ai tout de même trouvé que c'était une éducation utile. Je n'ai jamais regretté les années que j'ai consacrées à mes études médicales. Voici les portes de Delmar Court. Nous étions arrivés à deux hauts piliers couronnés de monstres héraldiques qui flanquaient l'ouverture d'une avenue sinueuse. Par-dessus les lauriers et les joncs de route, je pouvais voir une longue demeure à plusieurs pignons ceinturés de lierre et teintés de la lueur chaude, joyeuse et douce des vieilles briques. Mes yeux étaient toujours fixés avec admiration sur cette charmante demeure lorsque mon compagnon tira nerveusement sur ma manche. « Tiens, Sir Thomas, murmura-t-il, s'il te plaît, parle, scarabée, autant que tu peux. » Une grande silhouette mince, curieusement anguleuse et osseuse, était apparue par une brèche dans la haie de laurier. Il tenait une patate à la main et portait des gants de jardinier à gantelets. Un chapeau gris à large bord plongeait son visage dans l'ombre, mais il me parut extrêmement austère avec une barbe mal nourrie et des traits durs et irréguliers. La mouche s'arrêta et Lord Lynchmere bondit. « Mon cher Thomas, comment allez-vous ? » dit-il chaleureusement. Mais cette cordialité n'était en aucun cas réciproque. Le propriétaire du terrain me lança un regard noir par-dessus l'épaule de son beau-frère et je saisis des bribes de phrases. Désir bien connu, haine des étrangers, intrusion injustifiée, parfaitement inexcusable. Puis il y eut une explication murmurée, et tous deux s'approchèrent ensemble du côté de la mouche. Permettez-moi de vous présenter à Sir Tomarossa, Dr Hamilton, dit Lord Lynchmere. Vous constaterez que vous avez une forte communauté de goût. Je m'inclinai. Sir Thomas se tint très raide, me regardant sévèrement sous le large bord de son chapeau. Lord Lynchmere me dit que vous savez quelque chose sur les coléoptères, dit-il. Que savez-vous des coléoptères ? Je sais ce que j'ai appris de vos travaux sur le coléoptère, Sir Thomas, répondis-je. Donnez-moi les noms des espèces les plus connues de scarabées britanniques, dit-il. Je ne m'attendais pas à un examen, mais heureusement j'étais prêt à en subir un. Mes réponses semblèrent lui plaire, car ses traits sévères se détendirent. Vous semblez avoir lu mon livre avec quelque profit, monsieur, dit-il. Il est rare que je rencontre quelqu'un qui s'intéresse intelligemment à ce genre de choses. Les gens trouvent le temps de s'occuper de choses aussi futiles que le sport ou la société, et pourtant les Beatles sont négligés. Je peux vous assurer que la plupart des idiots de cette partie du pays ignorent que j'ai jamais écrit un livre. Moi, le premier homme à avoir décrit la véritable fonction des élytres. Je suis heureux de vous voir, monsieur, et je ne doute pas que je puisse vous montrer quelques spécimens qui vous intéresseront. Il monta dans la soute et nous accompagna jusqu'à la maison, m'exposant au passage quelques recherches récentes qu'il avait faites sur l'anatomie de la coccinelle. J'ai dit que Sir Tomarossa portait un grand chapeau enfoncé sur ses sourcils. Lorsqu'il entra dans le hall, il se découvrit, et je remarquai aussitôt une caractéristique singulière que le chapeau cachait. Son front, qui était naturellement haut de plus en plus haut en raison de la calvitie, était en perpétuel mouvement. Une certaine faiblesse nerveuse maintenait les muscles dans un spasme constant, qui produisait parfois un simple tressaillement, et parfois un curieux mouvement de rotation, différent de tout ce que j'avais pu voir auparavant. Cela était frappant lorsqu'il se tourna vers nous après être entré dans le bureau et semblait d'autant plus singulier qu'il contrastait avec les yeux gris, durs et fixes, qu'il regardait sous ses sourcils palpitants. « Je suis désolé, dit-il, que Lady Rosier ne soit pas là pour m'aider à vous souhaiter la bienvenue. Au fait, Charles, Evelyn a-t-elle dit quelque chose sur la date de son retour ? Elle souhaitait rester en ville quelques jours de plus, dit Lord Lynchmere. Vous savez comme les devoirs sociaux d'une dame s'accumulent si elle est restée quelque temps à la campagne. Ma sœur a actuellement de nombreux vieux amis à Londres. Eh bien, elle est sa propre maîtresse, et je ne voudrais pas changer ses plans, mais je serais heureux de la revoir. On est très seul ici sans sa compagnie. J'avais peur que vous ne le trouviez ainsi, et c'est en partie pour cela que je suis descendu en courant. Mon jeune ami, le docteur Hamilton, s'intéresse tellement au sujet que vous avez fait vôtre que j'ai pensé que vous ne verriez pas d'inconvénient à ce qu'il m'accompagne. Je mène une vie retirée, docteur Hamilton, et mon aversion pour les étrangers grandit en moi, a déclaré notre hôte. J'ai parfois pensé que mes nerfs n'étaient plus aussi bons qu'avant. Mes voyages à la recherche de scarabées dans ma jeunesse m'ont conduit dans de nombreux endroits impaludés et malsains. Mais un confrère coloptériste comme vous est toujours un hôte bienvenu, et je serais ravi si vous vouliez jeter un coup d'œil à ma collection, que je pense pouvoir qualifier sans exagération de la meilleure d'Europe. Et c'était sans aucun doute le cas. Il avait un immense meuble en chêne disposé dans des tiroirs peu profonds, et là, soigneusement étiquetés et classés, se trouvaient des scarabées de tous les coins du monde, noirs, bruns, bleus, verts et tachetés. De temps en temps, tandis qu'il passait ses mains sur les rangées et les rangées d'insectes empalés, il attrapait un spécimen rare et, le manipulant avec autant de délicatesse et de révérence que s'il s'agissait d'une précieuse relique, il s'étendait sur ses particularités et sur les circonstances dans lesquelles il était entré en sa possession. C'était manifestement une chose inhabituelle pour lui de rencontrer un auditeur compatissant, et il parla et parla jusqu'à ce que la soirée de printemps se soit transformée en nuit, et que le gong annonce qu'il était temps de s'habiller pour le dîner. Pendant tout ce temps, Lord Lynchmere ne dit rien, mais il se tenait à côté de son beau-frère, et je le surprenais en train de lui lancer continuellement de curieux petits regards interrogateurs, et ses propres traits exprimaient une forte émotion, de l'appréhension, de la sympathie, de l'attente. Il me semblait les lire, tout. J'étais sûr que Lord Lynchmere craignait quelque chose et attendait quelque chose, mais ce que cela pouvait être, je ne pouvais l'imaginer. La soirée se passa tranquillement mais agréablement, et j'aurais été tout à fait à mon aise, si ce n'eût été ce sentiment continuel de tension de la part de Lord Lynchmere. Quant à notre hôte, je trouvais qu'il s'améliorait au fur et à mesure que nous le connaissions. Il parlait constamment avec affection de sa femme absente, ainsi que de son petit garçon, qui avait récemment été envoyé à l'école. La maison, disait-il, n'était plus la même sans eux. Sans ses études scientifiques, il ne savait pas comment il passerait ses journées. Après le dîner, nous fumâmes quelque temps dans la salle de billard, et finalement nous nous couchâmes tôt, et ce fut alors que pour la première fois le soupçon que Lord Lynchmere était un fou me traversa l'esprit. Il me suivit dans ma chambre lorsque notre hôte se fut retiré. « Docteur, dit-il d'une voix basse et précipitée, vous devez venir avec moi. Vous devez passer la nuit dans ma chambre. Que voulez-vous dire ? Je préfère ne pas vous expliquer, mais cela fait partie de vos devoirs. Ma chambre est à proximité, et vous pouvez retourner dans la vôtre avant que le domestique ne vous appelle le matin. Mais pourquoi ? Demandai-je. Parce que j'ai peur d'être seul, dit-il. C'est la raison, car vous devez avoir une raison. Cela semblait de la pure folie. Mais l'argument de ces 20 personnes l'emporterait sur bien des objections. Je le suivis dans sa chambre. « Eh bien, dis-je, il n'y a de la place que pour une personne dans ce lit. Un seul l'occupera, dit-il, et l'autre devra rester de garde. Eh bien, dis-je, on pourrait penser que vous vous attendez à être attaqué, c'est peut-être le cas. Dans ce cas, pourquoi ne pas fermer votre porte à clé ? Peut-être que je veux être attaqué. » Cela ressemblait de plus en plus à de la folie. Cependant, il n'y avait rien d'autre à faire que de se soumettre. Je haussai les épaules et m'assis dans le fauteuil à côté de la cheminée vide. « Je dois donc rester de garde, » dis-je d'un ton solennel. « Nous allons partager la nuit. Si vous voulez veiller jusqu'à 2 heures, je veillerai le reste. »« Très bien. Appelez-moi à 2 heures et je le ferai. Ouvrez l'oreille et si vous entendez le moindre bruit, réveillez-moi immédiatement. Si vous entendez quelque chose, vous pouvez compter sur moi. » J'ai essayé d'avoir l'air aussi solennel que lui. « Et pour l'amour de Dieu, ne vous endormez pas, » dit-il. Et donc, n'enlevant que son manteau, il jeta la couverture sur lui et s'installa pour la nuit. Ce fut une veillée mélancolique, et d'autant plus que j'en avais moi-même le sentiment insensé. En supposant que Lord Lynchmere ait pu par hasard me faire soupçonner qu'il était en danger dans la maison de Sir Thomas Rossa, pourquoi diable ne pouvait-il pas fermer sa porte à clé et se protéger ainsi ? Sa propre réponse, selon laquelle il pourrait souhaiter être attaqué, était absurde. Pourquoi souhaiterait-il être attaqué ? Et qui voudrait l'attaquer ? De toute évidence, Lord Lynchmere souffrait d'une singulière illusion, et le résultat fut que, sous un prétexte idiot, j'allais être privé de mon repos nocturne. Malgré tout, aussi absurde que cela puisse paraître, j'étais déterminé à exécuter ses injonctions à la lettre tant que je serais à son service. Je m'assis donc près de la cheminée vide et écoutais le carillon sonore de l'horloge quelque part dans le couloir qui gargouillait et sonnait tous les quarts d'heure. Ce fut une veillée sans fin, disons pour cette seule horloge, un silence absolu régnait dans toute la grande maison. Une petite lampe était posée sur la table à mon coude, projetant un cercle de lumière autour de ma chaise, mais laissant les coins de la pièce drapés d'ombre. Sur le lit, Lord Lynch respirait paisiblement. Je lui enviais son sommeil paisible, et de nouveau mes propres paupières s'abaissaient. Mais chaque fois, mon sens du devoir me venait en aide, et je m'asseyais, me frottant les yeux et me pinçant, déterminé à voir ma montre irrationnelle prendre fin, et c'est ce que je faisais. Du bout du couloir retentit le carillon de 2 heures, et je posai ma main sur l'épaule du dormeur. Instantanément, il se redressa, l'expression du plus vif intérêt sur son visage. « Vous avez entendu quelque chose ? Non, monsieur, il est 2 heures. »« Très bien, je vais regarder. Vous pouvez aller dormir. » Je m'allongeai sous la couverture comme il l'avait fait et je perdis bientôt connaissance. Mon dernier souvenir était celui de ce cercle de lumière de lampe et de la petite silhouette voûtée et du visage tendu et anxieux de Lord Lynchmere au centre. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je fus soudainement réveillé par une forte traction sur ma manche. La pièce était dans l'obscurité, mais une odeur chaude d'huile m'indiqua que la lampe venait juste de s'éteindre. Vite, vite, me dit la voix de Lord Lynchmere à l'oreille. Je bondis hors du lit, il me tirait toujours par le bras. Par ici, murmura-t-il, et il m'entraîna dans un coin de la pièce. Chut, écoute. Dans le silence de la nuit, j'entendis distinctement quelqu'un descendre le couloir. C'était un pas furtif, faible et intermittent, comme celui d'un homme qui s'arrête prudemment après chaque enjambée. Parfois, pendant une demi-minute, il n'y avait aucun bruit, puis un bruit de pas traînant et de craquement annonçait une nouvelle avancée. Mon compagnon tremblait d'excitation. Sa main, qui tenait toujours ma manche, tremblait comme une branche dans le vent. « Qu'est-ce que c'est ? » murmurai-je. « C'est lui, Sir Thomas. »« Oui. Que veut-il ? » ?»« Chut. Ne faites rien avant que je vous le dise. » J'étais maintenant conscient que quelqu'un essayait d'ouvrir la porte. Il y eut un léger cliquetis provenant de la poignée, puis j'aperçus vaguement une mince fente de lumière tamisée. Une lampe brûlait quelque part au fond du couloir, et cela suffisait tout juste à rendre l'extérieur visible depuis l'obscurité de notre pièce. La fente grisâtre s'élargissait de plus en plus, très progressivement, très doucement, puis, se découpant contre elle, j'aperçus la silhouette sombre d'un homme. Il était accroupi et accroupi, avec la silhouette d'un nain massif et difforme. Lentement, la porte s'ouvrit en grand, avec cette forme menaçante encadrée en son centre. Et puis, en un instant, la silhouette accroupie se leva d'un bond. Un tigre bondit à travers la pièce et trois coups terribles retentirent, venant d'un objet lourd posé sur le lit. J'étais tellement paralysé par la stupéfaction que je restais immobile, les yeux fixés sur la scène, jusqu'à ce que je sois réveillé par un cri à l'aide de mon compagnon. La porte ouverte était suffisamment éclairée pour que je puisse distinguer les contours des choses. Et là, le petit Lord Lynchmere était là, les bras autour du cou de son beau-frère, le tenant courageusement comme un boule terrier qui mord un chien de chasse décharné. Le grand homme osseux se précipita, se tordant encore et encore pour attraper son assal. Mais l'autre, qui s'accrochait à lui par derrière, gardait toujours sa prise, bien que ses cris stridents et effrayés montraient à quel point il sentait la lutte inégale. Je me précipitai à la rescousse et nous parvînmes tous les deux à jeter Sir Thomas au sol, bien qu'il ait enfoncé ses dents dans mon épaule. Malgré toute ma jeunesse, mon poids et ma force, il nous fallut lutter désespérément avant de pouvoir maîtriser ses mouvements frénétiques. Mais nous finîmes par lui attacher les bras avec la ceinture de la robe de chambre qu'il portait. Je tenais ses jambes pendant que Lord Lynchmere essayait de rallumer la lampe lorsque nous entendîmes un bruit de pas dans le couloir, et le majordome et deux valets de pied qui avaient été alarmés par les cris se précipitèrent dans la pièce. Avec leur aide, nous n'eûmes plus de mal à maîtriser notre prisonnier, qui gisait écumant et le regard noir sur le sol. Un seul coup d'œil à son visage suffisait à prouver qu'il était un dangereux maniaque, tandis que le marteau court et lourd, qui gisait à côté du lit, montrait à quel point ses intentions étaient meurtrières. « N'usez d'aucune violence, » dit Lord Lynchmere, tandis que nous remettions l'homme sur pied. Il va passer une période de stupeur après cette agitation. Je crois que cela arrive déjà. À mesure qu'il parlait, les convulsions devenaient moins violentes, et la tête du fou retomba sur sa poitrine, comme s'il était pris de sommeil. Nous le conduisîmes dans le couloir et l'étendîmes sur son propre lit, où il resta inconscient, respirant bruyamment. « Deux d'entre vous le surveilleront, » dit Lord Lynchmere. « Et maintenant, docteur Hamilton, si vous voulez bien revenir avec moi dans ma chambre, je vais vous donner l'explication que mon horreur du scandale m'a peut-être fait trop tarder. Quoi qu'il arrive, vous n'aurez jamais à regretter votre part dans le travail de la nuit. L'affaire peut être éclaircie en très peu de mots, continua-t-il lorsque nous fûmes seuls. Mon pauvre beau-frère est l'un des meilleurs hommes de la terre, un mari aimant et un père estimable. Mais il vient d'une lignée profondément entachée de folie. Il a eu plus d'une fois des accès de folie, qui sont d'autant plus douloureux qu'il a toujours tendance à s'en prendre à la personne à laquelle il est le plus attaché. Son fils a été envoyé à l'école pour éviter ce danger. Et puis il y a eu une tentative d'assassinat contre ma sœur, sa femme, dont elle s'est tirée avec des blessures que vous avez peut-être remarquées lorsque vous l'avez rencontrée à Londres. Vous comprenez qu'il ne sait rien de l'affaire lorsqu'il est dans son silence, et qu'il se moquerait de l'idée qu'il pourrait, en toutes circonstances, faire du mal à ceux qu'il aime tant. Chèrement. Comme vous le savez, c'est souvent une caractéristique de ces maladies qu'il est absolument impossible de convaincre l'homme qui en souffre de leur existence. Notre grand objectif était, bien sûr, de le maîtriser avant qu'il ne puisse se tacher les mains de sang, mais la chose était pleine de difficultés. Il est un reclus dans ses habitudes et ne voulait voir aucun médecin. De plus, il était nécessaire pour notre dessein que le médecin se convainque lui-même de sa folie. Et il est sain d'esprit comme vous ou moi, sauf en ces très rares occasions. Mais heureusement, avant qu'il ait ses crises, il montre toujours certains symptômes prémonitoires, qui sont des signaux providentiels de danger, nous avertissant d'être sur nos gardes. Le principal d'entre eux est cette contorsion nerveuse du foride que vous avez dû observer. C'est un phénomène qui apparaît toujours de 3 à 4 jours avant ses crises de frénésie. Au moment où il s'est manifesté, sa femme est venue en ville sous un prétexte quelconque et s'est réfugiée dans ma maison de Brook Street. Il ne me restait plus qu'à convaincre un médecin des intentions de Sir Thomas. La folie, sans laquelle il était impossible de le mettre là où il ne pouvait pas faire de mal. Le premier problème était de savoir comment faire venir un médecin chez lui. Il m'a parlé de son intérêt pour les Beatles et de son amour pour quiconque partageait ses goûts. J'ai donc passé une annonce et j'ai eu la chance de trouver en vous l'homme que je cherchais. Il me fallait un compagnon solide, car je savais que la folie ne pouvait être prouvée que par une agression meurtrière, et j'avais toutes les raisons de croire que cette agression serait dirigée contre moi, puisqu'il avait la plus grande estime pour moi dans ses moments de santé mentale. Je pense que vos renseignements fourniront tout le reste. J'ignorais que l'attaque surviendrait la nuit, mais je pensais que c'était très probable, car les crises de ce genre surviennent généralement aux premières heures du matin. Je suis moi-même un homme très nerveux, mais je ne voyais pas d'autre moyen d'éloigner ce terrible danger de la vie de ma sœur. Je n'ai pas besoin de vous demander si vous êtes disposé à signer les papiers de la folie. Sans aucun doute, mes deux signatures sont nécessaires. Vous oubliez que j'en suis moi-même titulaire, d'un diplôme de médecine. J'ai les papiers sur une table d'appoint ici. Donc si vous voulez bien les signer maintenant, nous pourrons faire sortir le patient demain matin. C'était donc ma première visite à Sir Thomas Rossa, le célèbre chasseur de scarabées, et ce fut aussi mon premier pas sur l'échelle du succès. Car Lady Rossa et Lord Lynchmere se sont révélés être de fidèles amis, et ils n'ont jamais oublié mon association avec eux au moment où ils en avaient besoin. Sir Thomas est sorti et on dit qu'il est guéri, mais je pense toujours que si je passais une nuit de plus à Delmarcourt, je serais enclin à fermer ma porte à clé de l'intérieur. C'est la fin de The Beetle Hunter de Sir Arthur Conan Doyle, lu par Greg Wagland pour Magpie Audio 2020.